un mouvement qui a réussi à cristalliser un certain nombre de contestations qui étaient assez éparses, diverses par leur thématique. D'un côté, il y a, pour la première fois d'ailleurs, c'est un élément important, des contestations en ce qui concerne l'économie, la cherté de la vie, la qualité des services publics et notamment des transports publics. Mais de l'autre, aussi une contestation en ce qui concerne le politique. Et ça, on a déjà vu sous les gouvernements du PT, les gouvernements Lula puis Dilma, en ce qui concerne la corruption de la classe politique ou le financement illicite de campagnes électorales. Toutefois, ce mouvement qui, certes, il réussit à cristalliser et donc à se diffuser amplement et très rapidement, notamment via les réseaux sociaux, ce mouvement peine, jusqu'à présent, à construire une unité dans le discours, ce qui rendrait plus difficile par la suite la création d'une forme de négociation avec le gouvernement, que ce soit au niveau municipal, étatique ou fédéral. Tout cela se rajoute à des scènes de violence et donc ceci contribue à rendre ce mouvement ou ces mouvements assez difficiles à lire. Également pour la propre classe politique brésilienne qui a été prise au dépourvu et qui a visiblement du mal à répondre à cette manifestation très spontanée et imprévue.
Les dernières manifestations de cette ampleur, c'était en 1992. Elles étaient tournées vers le gouvernement du président Fernando Collor de Mello. Quelle différence aujourd'hui ?
Clairement à l'esprit, l'agenda est très clair et d'ailleurs les partis politiques, à commencer par le PT, sont très actifs dans la mobilisation. Les jeunes, d'anciens leaders d'ailleurs de la jeunesse brésilienne, sont devenus par la suite des députés et même des sénateurs du Parti des Travailleurs. Pour le moment, il s'agit de quelque chose de tout à fait différent aujourd'hui, avec un mélange de revendications allant de l'économique au social et au politique, sans qu'il y ait véritablement pour le moment de leaders qui émergent et qui proposent finalement une plateforme de négociation ou en tout cas une sortie, une issue politique. D'où l'embarras de la classe politique, que ce soit du gouvernement comme de l'opposition. Il réussit et pour la première fois à faire émerger des questions qui étaient sous-jacentes en ce qui concerne la cherté de la vie, les questions des transports, mais aussi des questions politiques. Et donc il y a une difficulté d'articulation concerne ces différentes protestations, mais qui pourtant convergent et qui donnent la force et la puissance à ce mouvement inédit.
Croissance en berne, poussée de l'inflation, est-ce que c'est aussi le contexte économique qui a fait descendre les Brésiliens dans la rue aujourd'hui ?
Tout à fait, il y a ces éléments-là, bien qu'il faut quand même, il me semble, relativiser la montée de l'inflation. Certes, elle est aujourd'hui à 6,5, alors que la moyenne devrait être 4,5, mais il y a 10 ans, l'inflation au Brésil était à plus de 2 chiffres. Bon, le pays était en crise. Le Brésil devait de l'argent au Fonds monétaire international. Un prêt de 30 milliards d'euros avait été accordé in extremis en 2002, juste avant l'arrivée de Lula au pouvoir. Aujourd'hui, la situation a complètement évolué. Toutefois, ce qu'il y a, sortant des chiffres et en rentrant dans la réalité des Brésiliens, il y a réellement une perception de cherté de la vie et finalement d'une certaine inflation et spéculation, notamment en ce qui concerne l'immobilier. C'est pas étrange que une des villes qui soit vraiment en pointe en ce qui concerne les manifestations, soit Rio. Rio qui accueillera tant la Coupe du Monde que les Jeux Olympiques et qui est vraiment la capitale de la spéculation immobilière aujourd'hui au Brésil.